Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bonjour et bienvenue à cette sixième séance de notre cours sur la présence des collections africaines dans les musées d'Europe. Sixième cours qui est le second dans cette configuration particulière à laquelle nous contraint le coronavirus, consacré aujourd'hui au rôle des missionnaires des maisons religieuses dans l'appropriation et le transfert du continent africain à différents musées d'Europe de pièces de l'héritage matériel subsaharien. La séance s'intitule « Au nom du Christ ». Je résume rapidement celles qui ont précédé. Nous avons d'abord, dans la première séance, fait connaissance avec le type d'objet, la typologie des objets qui, au XVIe siècle, avaient rejoint les cabinets de curiosité européens, depuis la région de l'ouest de l'Afrique principalement. Puis, nous nous sommes intéressés à la question des explorateurs, avec beaucoup de guillemets, et aux conditions dans lesquelles ils ont pu acheter des pièces qui sont aujourd'hui dans nos musées publics en Europe, conditions dans lesquelles ils ont pu les échanger, les recevoir en cadeau et ou encore se voir refuser des achats ou des échanges. Après cette séquence consacrée au long 19e siècle, au 19e siècle jusqu'aux années 1884, jusqu'au partage de l'Afrique par les puissances européennes, nous nous sommes intéressés à la question du passé colonial des musées ou de l'imbrication entre cette histoire coloniale des pays africains, des pays européens en Afrique et l'histoire de leurs musées, en constatant que la provenance des collections africaines dans les musées d'Europe, dans tous les musées d'Europe, était inextricablement liée à la géographie coloniale et à la chronologie coloniale. Dans le dernier cours, intitulé « Armées et musées », il a été question des événements de spoliation coloniale qui ont pu être menés par l'armée britannique, française, prussienne, belge, dans différentes configurations vers le dernier tiers du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et nous avons vu comment, dans certains musées, en particulier en Grande-Bretagne, la tradition du trophée de guerre continue d'être maintenue, y compris dans la dénomination des pièces, comme vous le voyez ici à propos de cette tête trophée originaire du peuple Ashanti ou du Ghana actuel. Aujourd'hui, nous nous intéressons au rôle donc des missionnaires comme intermédiaires, comme agents, comme acteurs du transfert massif d'objets, entre guillemets, là encore, entre le continent africain et l'Europe, jusque dans les années 1930-1940. La séquence est aujourd'hui articulée, comme toujours, en trois volets. Le premier s'intitule « Homme de terrain » au pluriel, le second « Pièce à conviction » et le troisième « Désarroi fatal ». Et nous commençons, comme toujours, par le document du jour. Document du jour que vous avez vu, qui est un petit objet du jour, une statuette, réalisé par un artiste dont le nom nous est inconnu, qui a été réalisé donc au début du XXe siècle dans l'actuelle République démocratique du Congo, qui est conservé aujourd'hui au Africa Museum, au musée de Tervuren près de Bruxelles, et qui représente un missionnaire bien identifié, puisqu'il s'agit de Léo Bitremieux, missionnaire de Scheut, donc une congrégation cise du côté de Bruxelles, Bitremieux qui fut à la fois un missionnaire renommé, mais aussi un ethnographe. Et dans toute la séquence qui va nous occuper aujourd'hui, il faudra toujours avoir à l'esprit que ces missionnaires, ces hommes de terrain, qui souvent apprennent les langues des pays, des régions dans lesquelles ils se trouvent, qui y vivent, contrairement aux explorateurs, notamment, qui y vivent longtemps, parfois des décennies, parfois toute une vie, qui ont donc une connaissance très précise du terrain, non seulement du terrain, mais aussi des âmes, puisque leur métier est de convertir les populations locales. Ils ont donc une intimité avec ces populations et ils ont été, au XIXe siècle et au XXe siècle, parfois parmi les plus grands spécialistes européens, au même titre que des ethnographes universitaires de ces régions. Vous voyez donc Léo Bitremieux ici, il est né en 1880 et mort en 1946. Vous le voyez ici à côté d'une figure de ce qu'on appelle à l'époque un fétiche, et là encore, on verra tout à l'heure qu'il faut utiliser beaucoup de guillemets quand on utilise cette expression, à côté d'une statuette rituelle dans la région de Mayombé, dans laquelle il a principalement travaillé. Je vous montre une autre statuette réalisée par un sculpteur africain de Sebitremieux qui manifestement aimait se faire représenter par les artistes locaux. Vous le voyez ici à gauche, les deux statuettes sont conservées dans des musées européens aujourd'hui. Et nous situons avec Bitremieux, sur lequel on reviendra tout à l'heure, dans cette région donc du sud du Sahara, qui correspond aujourd'hui, donc la région du Mayombé, qui correspond aujourd'hui à un territoire situé à cheval entre l'Angola, les Congos et le Gabon. Un mot de bibliographie pour cette séance sur donc les missionnaires, sur le rôle des missionnaires dans la constitution des collections missionnaires et des collections publiques européennes. D'abord, ce qui est important, c'est d'essayer de bien avoir à l'esprit que ces missions sont un phénomène mondial, européen en tout cas. Il existe au XIXe siècle, au XXe siècle également des missions aux États-Unis. Celles qui nous intéresseront seront principalement les missions européennes. Il y a quelques années est paru un recueil d'historiographie sur l'histoire missionnaire qui comparait l'historiographie française, belge, des Pays-Bas et d'Italie, très utile donc pour mettre ensemble ces différentes perspectives nationales. Et plus particulièrement sur la question des collections missionnaires, des musées missionnaires, je me suis appuyée ici sur un recueil intitulé « Trophées, reliques et curiosités » publié notamment par Chris Wingfield et qui concerne toutes les collections, pas seulement les collections africaines, et qui a un focus sur les collections britanniques, mais pas seulement. Par ailleurs, sur un ouvrage intitulé « Missionsgeschichtliche Sammlungen heute », qui s'intéresse aux collections missionnaires dans le domaine germanophone, et plus généralement aux travaux sur les travaux. Je me suis appuyée sur les travaux de Chris Wingfield, qui s'intéresse, qui travaille depuis longtemps sur les musées missionnaires. Par ailleurs, j'ai utilisé quelques monographies sur des cas précis. La première, parue en 2011, consacrée aux collections formées notamment par Léo Bitremieux, Mayombé, qui est un catalogue d'expositions mené donc en Belgique, sur un catalogue d'expositions paru en 2015 intitulé « Mission possible », où il est question de la mission de Bâle, la mission bâloise. On y reviendra tout à l'heure. Et puis aussi beaucoup sur un article, sur un bel ouvrage publié par, sous la direction de Nicolas Roland en 2017, intitulé « Afrique à l'ombre des dieux », où il est question des collections spiritaines, des collections des spiritains. Un très bel ouvrage qui prend en compte la dimension historique de la constitution de ces collections notamment. Et puis sur tous les travaux de Laurie Zerbini, en particulier sur cet ouvrage paru en 2019, « L'Afrique noire en vitrine », où il est question des collections missionnaires, mais plus généralement sur les articles et les ouvrages de Laurie Zerbini, qui en France compte parmi les meilleurs spécialistes de ces questions. Dans le recueil, dans le livre « Afrique à l'ombre des dieux », je vous recommande particulièrement l'article de Nicolas Roland intitulé « De l'exposition missionnaire au musée scientifique ». Et comme je le disais, pour ce qui concerne Laurie Zerbini, qui a éclaire particulièrement les collections lyonnaises, il y a une foule d'articles extrêmement intéressants comme celui-ci, « La construction du discours patrimonial, les musées missionnaires à Lyon » ou encore un article fondamental sur l'exposition vaticane de 1925, « L'affirmation de la politique missionnaire de Pie XI ». Et nous nous lançons donc dans la première partie intitulée « Hommes de terrain ». Si vous vous souvenez de notre cours consacré à la conférence de Berlin et à l'acte général de la conférence de Berlin qui avait mis un terme et qui avait établi et élaboré les règles du jeu pour le partage de l'Afrique entre les nations européennes, l'article 6, souvenez-vous, stipulait que les missionnaires, les savants, les explorateurs, leurs escortes, leurs avoirs et collections devraient être l'objet d'une protection spéciale. Parmi donc la série d'acteurs impliqués que l'acte de Berlin, que la conférence de Berlin a bien en vue lorsqu'il s'agit de proposer des protections, les missionnaires jouent le premier rôle. Il s'agit bien des missionnaires d'une part et d'autre part de leurs avoirs et collections. Les missionnaires avant les savants, avant les explorateurs, sont sur le terrain africain, comptent parmi les premiers européens à s'implanter dès le milieu du 19e siècle, en fait parfois même plus tôt, mais de manière de plus en plus importante à partir du milieu du 19e siècle, sur le continent africain. Le plus célèbre d'entre eux est David Livingstone. On oublie souvent qu'il a été missionnaire, on l'associe plutôt à l'image de l'explorateur, mais ce David Livingstone, ses voyages publiés au milieu du 19e siècle s'intitule bien Missionary Travels, donc des voyages missionnaires qu'il a menés au sud, en Afrique du Sud. On le voit ici. David Livingstone était missionnaire de la mission de Londres, de la Société missionnaire de Londres, mais évidemment toute l'Afrique se remplit, entre guillemets, au 19e siècle, de différentes missions catholiques et protestantes qui forment des unités qui s'installent dans les différentes régions africaines. Je vous montre ici, pour illustrer mon propos, une photo de groupe des Pères Blancs, donc une congrégation catholique spécialisée sur le continent africain. D'autres congrégations sont également présentes en Asie, en Inde, en Océanie, mais les Pères Blancs sont principalement ou uniquement installés en Afrique, plutôt en Afrique du Nord, mais également en Afrique du Sud. Sur cette photo de groupe, on les voit lors d'une expédition ou d'une mission au Congo en 1903. Prêtres catholiques d'une part, mais aussi protestants. Autre illustration, celle ici d'une photographie prise en 1903 et qui représente un père protestant de la Norddeutsche Mission entouré des élèves d'une école qu'il a créée. On voit au 19e siècle et à la fin du 19e siècle en particulier que l'Afrique n'est pas seulement découpée selon les nations qui se sont mises à la coloniser, mais aussi par ces missions dont la répartition territoriale ne correspond pas exactement, on imagine bien, aux frontières nationales. C'est-à-dire que certaines missions sont à cheval, peuvent être à cheval sur plusieurs colonies européennes. Je vous montre ici donc la carte des missions catholiques d'Afrique, une carte réalisée dans les années 1880, et on voit bien à la légende qu'on a d'une part, dans la partie supérieure de la légende, en couleur, la marque des colonies et protectorats européens, en bleu la Grande-Bretagne, en rose la France, en vert l'Allemagne, etc. Et puis, dessous, il est question de circonscriptions ecclésiastiques qui sont donc découpées tout à fait différemment, avec une Afrique septentrionale, une Afrique éthiopienne, une Afrique orientale, centrale, etc., où sont présentes soit des missions catholiques, soit des missions protestantes, qui en plus peuvent être des missions catholiques espagnoles ou françaises ou autrichiennes, par exemple, ou encore des missions protestantes suisses, françaises, allemandes, etc. Le rapport entre la puissance ou les autorités coloniales, l'armée et les missionnaires est un rapport complexe, un rapport parfois de service rendu ou parfois d'opposition. Il ne me revient pas ici de faire l'histoire des missions en Afrique, mais simplement, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, de voir comment vont se constituer des collections d'objets, des pièces matérielles qui vont être transférées par ces acteurs très présents au sud du Sahara, transférées donc dans les collections européennes. Cette histoire des musées missionnaires ou de la présence d'objets venus par l'intermédiaire de missionnaires en Europe au XIXe siècle est assez précoce, puisque dès 1814, on est encore sous l'Empire en Europe, enfin en France, est créé le premier musée missionnaire, qui est le musée missionnaire de Lyon, dont vous voyez ici une représentation populaire qu'on reconnaît du premier coup sur les gravures de l'époque à sa girafe empaillée, qui était certainement l'attraction de ce premier musée missionnaire. Un musée missionnaire qui ne se distingue pas réellement par sa composition et par sa présentation au tout début du XIXe siècle d'autres cabinets d'histoire naturelle et d'objets ethnographique. Il a été étudié, ce premier musée, par Chris Wingfield, que j'évoquais déjà, qui montre bien comment c'est progressivement et en fait tardivement au XIXe siècle que ce musée va acquérir un caractère plus sacerdotal, plus explicitement missionnaire et religieux. Au début, ce n'est pas le cas. Par ailleurs, on trouve dans les archives, et je vous montre ici une lettre conservée dans les archives des musées de Berlin, on trouve dès les années 1840 des propositions de dons, ou plutôt parfois et généralement de ventes, de collections, d'ensembles formés par des missionnaires. Ici, il s'agit d'une lettre d'un missionnaire nommé Hermann Haller, qui opérait dans la région de l'actuel Ghana et qui propose au musée de Berlin en 1846, de retour en Allemagne, il propose un ethnographisches Kabinett qui est issu d'objets pris dans la région Ashanti. J'ai marqué sur la lettre, comme vous le voyez, les mots-clés, et il s'agit bien d'une liste d'objets, de trois ensembles qui vont être acquis en effet par les musées de Berlin. Vous voyez ces pièces ici, qui sont à la fois des objets du quotidien, quelques instruments de musique, des textiles, rien de très différent donc de ce qu'ont pu, de ce que peuvent à la même époque rapporter ce qu'on avait, ce que nous avons appelé les explorateurs dans les cours précédents. Mais la typologie des objets que ces missionnaires vont progressivement rapporter ou proposer au musée européen évolue au cours du siècle, et à partir du milieu du XIXe siècle, et en particulier dans le dernier tiers, on voit apparaître une nouvelle catégorie d'objets qui est bien plus présente dans leurs collections à eux que dans les collections des explorateurs, qui sont ceux qu'à l'époque on appelle des fétiches, qu'on appelle longtemps d'ailleurs des fétiches. Je vous montre ici dans l'encyclopédie théologique de l'abbé Migne, qui est l'ouvrage de référence pour les prêtres de l'époque, c'est les lecteurs principaux et les utilisateurs principaux de cette encyclopédie théologique qui rassemble la somme du savoir théologique et qui tente de se mettre au niveau la théologie, enfin, de proposer une encyclopédie qui ressemble aux encyclopédies scientifiques. Ici, à la rubrique fétiche, on peut lire « fétiche », ce mot, emprunté au portugais « fetiço », objet fêté ou vénéré, et adopté par quelques peuplades nègres, s'emploie en général pour désigner les objets du culte des habitants de la Guinée et d'autres peuples barbares de l'Afrique. Tout ce qui frappe l'imagination déréglée du nègre devient son fétiche, son idole. Il adore, il consulte un arbre, un rocher, un œuf, une arête de poisson, un coquillage, un grain de datte, une corne, un brin d'herbe. Quelques peuples ont un fétiche national et suprême. L'article continue sur plusieurs colonnes et nous montre ici, d'une part, combien le discours sur les fétiches, sur les objets rituels est condescendant et met en avant le caractère barbare des populations locales, sans entrer ici dans une compréhension des rituels, dans un effort d'interprétation de ces objets. Donc ils sont vus comme des pièces qui prouvent un dérèglement des populations. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que les missionnaires vont devenir progressivement, au fil du XIXe siècle, les spécialistes des fétiches, en tout cas du point de vue européen, du point de vue des directeurs de musées. Ce sont eux, les missionnaires, qui sont les plus à même d'être en contact avec ce type d'objet, puisque l'un de leurs objectifs, et je vais y revenir dans un instant, est d'échanger les croyances locales, les croyances traditionnelles contre le christianisme. À partir de cette période-là, de la deuxième moitié du XIXe siècle et surtout de la fin du XIXe siècle, se multiplient les photographies qui montrent des missionnaires qui diffusent l'iconographie du missionnaire à côté d'un fétiche entre guillemets. On a vu Bitremieux tout à l'heure. Je vous montre ici une photographie souvent reproduite d'un autre père spiritain, Camille Laguel, à côté d'un féticheur, comme le dit la légende de l'image, et qui représente, semble-t-il, d'après les recherches effectuées par les spécialistes, un médecin traditionnel qui est ici accroupi et dont ce père spiritain qui se tient tout à fait à ses côtés, il a posé les mains sur ses épaules d'un signe de prise en main en quelque sorte, ou peut-être d'un signe paternaliste. Et ces photos de chrétiens mises en contact direct avec ces féticheurs entre guillemets, où ces fétiches sont une iconographie qui se développe beaucoup et qui est liée à l'idée selon laquelle le missionnaire échange la croix contre le fétiche, pour faire simple. Je vous montre ici la couverture d'une revue missionnaire irlandaise qui, dans les années 20 encore, on est en 1928, fait de ce motif du missionnaire jetant à terre par la force de sa croix des fétiches, fait de ce motif ou contribue à populariser ce motif. Dernier exemple, pour la popularité de du lien entre mission, fétichisme, c'est-à-dire religion locale, et extermination en quelque sorte du fétichisme grâce à l'action missionnaire, une carte postale publiée dans une série d'un missionnaire qui s'appelle Le Ray, qui est donc la carte postale qui porte le numéro 79 et le titre « Congo français, les derniers restes du fétichisme », sur laquelle on voit un homme africain torse nu, accroupi ou assis derrière des reliquaires, des boîtes de reliquaires surmontées pour l'une d'un crâne, et devant ces trois boîtes reliquaires sont placées des figures de reliquaires comme celles que l'on peut retrouver aujourd'hui, et celles-ci est présente dans les collections des spiritains que j'évoquais tout à l'heure. Elle est reproduite dans le catalogue de Nicolas Roland. Ces figures de reliquaires, donc, qui, à l'occasion de la conversion, du travail de conversion opéré par les missionnaires, vont être prises par ces missionnaires et envoyées, ou non, et on reviendra dans un instant sur cette question, dans les collections européennes. Si on quitte le domaine de l'image, de la propagande par l'image, pour regarder les textes de cette époque, on voit que la question des fétiches, c'est-à-dire de la culture matérielle, religieuse, matérielle, spirituelle, des régions converties ou en tout cas investies par ces missionnaires, que les fétiches jouent un rôle, entre guillemets, les objets, la culture matérielle, le support matériel des croyances jouent un rôle dans la littérature de l'époque. Je vous montre simplement trois exemples. L'un, qui est antécédent aux années 1870, rapporte une scène, alors rapporte bien sûr toujours sur un ton destiné à montrer la force de la mission, la force du Christ, donc sur un ton pédagogique, si on veut. Cet extrait donc fait part d'un dialogue qui aurait eu lieu entre un prêtre catholique et une sorcière ou une vieille femme dans la région de l'actuel Bénin, sous un hangar, donc le Dahomey. Sous un hangar recouvert en feuilles de palmier, une vieille femme vendait des fétiches. Ses cheveux en désordre, ses deux gros yeux sortant de leurs orbites, son visage effaré lui donnait l'air d'une furie. Le père Verdelet s'approche et lui demande ce qu'elle vend. « Des fétiches, » répond-elle. « Comment ne rougis-tu pas, » reprend le missionnaire, « de tomber à genoux devant cette terre que tu as pétrie de tes mains, devant ce bois que tu as façonné toi-même? Comment surtout oses-tu proposer aux autres hommes d'adorer de tels objets ?» Elle ne savait que répondre. Surviennent deux féticheurs et s'engage un dialogue entre les pères, le père, missionnaires et les féticheurs, qui finalement, très vite dans ce texte, sont convaincus par ces arguments et décident de se convertir. Ici, les objets servent de support au récit, mais ils ne sont pas pris, on ne voit pas un transfert ou une prise ou une confiscation des fétiches, ils restent là sur le marché. On est là dans les années, avant les années 70. Et dans la littérature, l'attitude face à ces fétiches change au fur et à mesure des années. Je vous montre un deuxième extrait issu de la littérature protestante allemande missionnaire, Der Evangelische Heidenbot, et le titre d'une revue dans laquelle il est question ici, dans un article intitulé Der Fetischbaum von Atkawa, d'un arbre qui servait au rituel de la région dans laquelle se trouvent ces deux Ashanti, dans laquelle se trouvent deux missionnaires de la mission baloise, et qui décrivent dans ce texte comment ils arrivent et ils vont à grands coups de hache abattre cet arbre à fétiche, selon eux, selon le propos ici, avec les remerciements de la population qui est heureuse, nous dit ce texte, d'être débarrassée enfin de ce poids du fétichisme et de pouvoir passer sur la route puisque cet arbre à fétiche gênait le passage pour des raisons magiques. Troisième exemple, l'écho d'Afrique, on est dans les années 1920. Ici, il est question du rapport entre, dans une rhétorique beaucoup plus violente, combative, de combat, il est question du rapport entre la destruction des fétiches par le missionnaire et son œuvre apostolique. Tel le soldat, je lis, tel le soldat ravissant un drapeau aux mains de l'ennemi, le missionnaire catholique exulte lorsqu'il peut arracher des fétiches au culte des Noirs qui se convertissent et en doter les expositions missionnaires. Notre œuvre en possède ainsi de très authentiques dans ses musées. Ce sont des trophées chantant la victoire éternelle du Christ sur Satan, etc. Ici, on a une vraie métaphorique militaire, là encore du trophée, mais trophée du christianisme. Donc, avec ces trois exemples, je voulais montrer d'abord, dans un premier temps, le fait que les fétiches sont laissés de côté. On voit qu'ils ont cours, mais le prêtre les laisse de côté et convertit ceux qui sont autour. Dans le deuxième cas, une destruction de fétiches. Et dans le troisième cas, pas seulement une destruction, mais un ravissement, enfin une prise du fétiche qui n'est pas détruit mais envoyé dans les collections. Ce seront en gros les trois possibilités d'action que les missionnaires, dont témoignent les missionaires dans la littérature en tout cas, même s'il ne faut pas prendre ces textes toujours au pied de la lettre. Au fil du XIXe siècle, et en particulier autour de 1900, les missionnaires déploient donc non seulement une expertise de la chose religieuse et des matérialités qui fixent les religions, mais aussi ils se développent une véritable science missionnaire et une revendication des missionnaires d'être d'excellents scientifiques. Dans la revue Anthropos, qui est une revue missionnaire d'anthropologie créée au début du XXe siècle, Alexandre Leroy, missionnaire spiritain, écrit « Nous prétendons être plus qualifiés que qui que ce soit pour étudier les choses religieuses. Nous sommes plus instruits sur ces questions et nous les comprenons mieux. C'est notre parti. » Donc on voit que ici, et en particulier pour ce qui concerne la collection d'objets tirés de cultes, des différents cultes locaux rencontrés par les missionnaires, c'est bien cette catégorie d'hommes et de quelques femmes d'ailleurs engagées sur le terrain pour des raisons de conversion des populations qu'ils vont jouer un rôle central dans l'histoire des collections, et pas seulement des collections missionnaires. Vous voyez ici en bas dans la vignette le musée de la mission baloise créé dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais aussi pour les musées publics. Et vous voyez en haut, dans la vignette du haut, le Völkerkundemuseum de Berlin. Quand le directeur du musée de Berlin apprend autour de 1900, en 1899, que certains fétiches, entre guillemets, font l'objet d'autodafés dans les régions travaillé par les missionnaires balois, le directeur du musée de Berlin se plaint auprès de la mission de Bâle et demande aux missionnaires de ne pas détruire les fétiches, mais bien de les envoyer dans les musées. Cette question l'intérêt muséal d'objets qu'on voudrait soustraire à la vue des populations locales, comme répondent d'ailleurs les missionnaires balois, ils disent qu'il faut qu'on soustrait ces fétiches aux populations locales et il ne faut surtout pas qu'on les prenne, car ils risquent de se faire un commerce autour de tout cela. Mais cet échange entre le musée de Berlin et le musée de Bâle montre combien, au plus tard autour de 1900, les fétiches sont devenus non seulement un objet d'intérêt pour les collections publiques, mais aussi pour le marché. Deuxième partie, pièce à conviction. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a trois cas de figure. Le cas de figure où les objets de culte restent sur place, le cas de figure où ils sont détruits, et puis le troisième, parfois par auto-da-fé, et le troisième cas de figure où ces objets sont emportés comme des trophées chrétiens, des trophées de la victoire de la chrétienté sur les religions locales. Quand ces objets donc ne sont pas détruits, ils sont envoyés dans les collections qui sont parfois des collections missionnaires, puisque les certaines missions, tant en France, aux Pays-Bas, en Belgique, qu'en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie, certaines de ces missions créent des musées avec les objets qu'elles recueillent. On voit, à l'exemple que je vais évoquer maintenant, l'exemple de ce qu'on a appelé l'idole géante de dix coquilles, que ces pièces ont d'abord, dans la plupart des cas, et je dis d'abord dans un sens chronologique, une fonction je trouve toujours le mot allemand qui est Erbauung, et que je cherche le mot français qui est une fonction, pardon, c'est pas le bon terme, pédagogique, pour les populations restées en Europe, à qui il s'agit de montrer combien le travail des missionnaires est important, combien sont grands les dangers auxquels ils s'exposent et combien sont puissantes leurs victoires sur les populations locales et sur les cultes locaux. Le géant, l'idole géant de dix coquilles, c'est cette statue de près de 2 mètres de haut qui se trouvait au Cameroun et qui a été sciée. Elle supportait une maison rituelle dans laquelle avaient lieu notamment des actions juridiques sur place, à en croire en tout cas les descriptions des missionnaires. Et ce géant a été scié, donc il servait de support à cette maison, à ce bâtiment. Il a été scié, il mesure 2 mètres de haut, et envoyé à Bâle en 1899. On est très bien informé des conditions dans lesquelles s'est faite cette opération. Et si on retourne la photographie qui représente dix coquilles, on voit dans les archives du musée de Bâle que cette photographie est nommée, porte le titre « Siegesbeute aus Kamerun », c'est-à-dire « butin de guerre du Cameroun ». Ce qui, dans un contexte missionnaire, paraît être un vocabulaire de prime abord frappant, mais qui correspond au texte qu'on a vu tout à l'heure. Cette statue du géant dix coquilles était installée à Bâle dans une pièce qui était censée représenter une rue au Cameroun. Vous voyez au fond de cette carte postale colorée que je vous montre ici le géant dix coquilles, donc qui supporte en effet une cabane abstraite ici. Il est entouré de plusieurs masques et d'autres objets, dont une pirogue au milieu de la rue et d'autres pièces qui semblent être des pièces du quotidien, ainsi qu'un trophée animal, sans doute un crâne d'éléphant peut-être. On voit bien ici, dans cette exposition de la mission baloise, qu'il s'agit de créer le sentiment, à la fois un sentiment d'un certain ordre, mais un ordre effrayant, d'où les humains d'abord sont absents et où les masques occupent un rôle central. Il s'agit d'une exposition qui, dans les années 1900, dans la première décennie du XXe siècle, a tourné et a eu plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, donc organisé par la mission baloise. Et ici, le fait de montrer, d'avoir en Suisse et ailleurs ces trophées à disposition montre, et une manière de dire en quelque sorte, une manière muséographique de dire que la foi catholique, chrétienne et dans le cas présent protestante a vaincu sur les peuples barbares. On trouve d'autres documentations photographiques de ces premières expositions. Ici, il s'agit d'une photographie qui montre l'une des expositions des sociétés missionnaires, des sociétés des missions d'Afrique, missions africaines de Lyon, pardon. Ici, la mise en scène représente un serpent énorme, entouré, donc naturalisé autour d'un arbre à côté d'un alligator et d'un petit singe, souvent comme l'a montré Laurie Zerbini et comme l'ont montré Laurie Zerbini et Nicolas Roland. Il s'agit dans ces mises en scène d'effrayer beaucoup les fidèles, de leur montrer à quel danger s'exposent les missionnaires et de suggérer donc que les sommes qu'on envoie ou le soutien qu'on témoigne à ces missionnaires d'Afrique sont justifiés et qu'il faut d'ailleurs les augmenter. Donc souvent, on a une muséographie du danger, de l'effroi, qui est destinée non seulement à créer de l'empathie avec les missionnaires, à justifier leur travail et à montrer combien le travail de conversion est efficace, puisqu'on rassemble ensuite dans les missions, dans les maisons des missions, ces pièces à conviction que sont les objets exposés, pièces à conviction qui est une expression que j'emprunte à Nicolas Roland. Les missions africaines de Lyon, mais d'autres villes dans des provinces françaises et d'autres pays d'Europe ont donc souvent des musées. Ces musées ont une existence qui s'interrompt vers la fin du XXe siècle dans de très nombreux cas, mais qui a une longue histoire, au moins jusqu'aux années 1960. Je vous montre ici un catalogue des années 70 ou 60 du Musée des Missions africaines de Lyon. Dernier exemple, pour ces expositions de pièces à conviction de la foi ou du triomphe de la foi sur les populations et les religions africaines, la grande exposition missionnaire vaticane de l'année 1925, une immense exposition organisée donc à Rome et qui avait sollicité l'appui de tous les missionnaires du monde entier liés donc qui répondaient à l'appel du pape, et donc pas seulement aux Africains, exposition destinée à montrer le rayonnement de la foi catholique dans le monde. Ici, sur ce plan de l'exposition missionnaire vaticane, vous voyez que les pièces ou les salles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 sont consacrées à l'Afrique, et une nombreuse littérature, une littérature très riche, est publiée à ce moment-là, qui explique combien cette exposition a été d'abord difficile à mettre en place, quels efforts les missionnaires ont dû fournir et quelle est son intention. Je vous lis un extrait de la revue illustrée de l'exposition missionnaire vaticane publiée en 1924, dans lequel il est dit « Les visiteurs de l'exposition des missions, qui trouveront les objets bien disposés et alignés sur les étagères, numérotés, étiquetés, catalogués, peuvent difficilement se faire une idée de l'énorme travail et des sacrifices humains qu'ont coûté la collecte et l'expédition de nombreux objets provenant des régions les plus éloignées et les moins accessibles au monde. Ayons une pensée de gratitude pour les humbles, lointains et inconnus coopérateurs qui, sur des dos humains, à travers montagnes et déserts, ont porté les lourdes caisses requises par le désir du Père commun à tous les fidèles. » Et l'article poursuit en citant une lettre d'un vicaire apostolique du Rwanda, Monseigneur Classe, écrite le 1er juillet 1924. Donc l'article cite cette lettre, et cette lettre m'a paru intéressante parce qu'elle nous rappelle combien ces translocations sont aussi des opérations très, très compliquées, très lourdes à mener, de transport, et que leur prix est extrêmement élevé. Le prix pour pouvoir montrer ensuite en Europe ces objets venus d'Afrique. Donc ce missionnaire, Classe, écrit 10 colis, c'est-à-dire deux grandes balles de petits objets et 8 caisses numérotées de 1 à 10 ont été expédiées il y a une dizaine de jours. Mais la difficulté est immense, car tout doit être transporté à dos d'homme vers Usumbra par les chemins de nos très hautes et horribles montagnes. Si cela n'avait pas été en réponse aux souhaits du Saint-Père, nous aurions renoncé à l'engagement. Surtout, deux de ces caisses sont de très grande taille et extrêmement difficiles à manipuler. Il a fallu 40 hommes pour porter chacune d'elles à cause de nos horribles chemins. J'espère cependant que dans 20 ou 25 jours, ils pourront atteindre Usumbra. L'odyssée des porteurs sera alors terminée, mais ils auront fait un acte de foi et d'amour envers le Saint-Père, et je peux vous assurer d'un acte qui n'est pas très ordinaire. les pauvres missionnaires ont l'intention de faire don de ces objets au pape. Il est entendu, contenu dans la dernière lettre du vicaire apostolique, nous dit toujours cet article, que nous ne demandons pas la restitution d'aucun des articles envoyés. Pauvres vicariats et pauvres objets d'un pays pauvre d'Afrique centrale, nous avons au moins fait tout notre possible pour vous envoyer ce qui est chez nous, par amour de notre petite compagnie et pour montrer notre dévotion filiale au Saint-Père. Alors cette lettre, cet article mériterait de longs commentaires. D'une part, le fait que, déjà évoqué d'ailleurs, que l'exportation du patrimoine spirituel africain se fait à dos d'homme et à dos d'homme africain, que ce sont donc les populations elles-mêmes qui portent, qui exportent, avec ce motif du porteur, les objets de culte qui leur sont soustraits dans le cadre de cette, dans le processus d'évangélisation des populations, d'une part. D'autre part, que cet effort physique, cette déportation est justifiée par la foi de ces personnes converties, nous dit-on. Et troisième élément intéressant, me semble-t-il, que les objets qui quittent en très grande quantité ces régions n'ont pas vocation à y retourner, puisque l'effort serait trop grand pour les faire revenir, nous dit ici le missionnaire. On préfère que Rome les garde. Je vous montre ici, simplement pour qu'on puisse avoir une idée concrète du genre de muséographie de l'exposition missionnaire vaticane en 1925, la salle consacrée au Congo et un texte qui l'accompagne, un texte donc dans l'un des nombreux livrets publiés à cette occasion, qui décrit la salle en indiquant qu'on y voit un missionnaire catholique d'un côté, c'est-à-dire donc une poupée géante à taille naturelle, un mannequin d'un missionnaire catholique d'un côté, d'un sorcier de l'autre, qui, nous dit ce livret, exprime par leur seule présence comment la religion doit affronter la superstition païenne de l'Empire sur les armes. Le travail des écoles professionnelles missionnaires dit avec éloquence combien la religion catholique peut faire pour éduquer le sauvage, puisque à côté de ces pièces rituelles, de ces fétiches, entre guillemets, l'exposition montre des objets manufacturés, des objets faits par des artisans, et en particulier des statuettes chrétiennes qui représentent parfois la Vierge ou le Christ, faits par les artistes africains ou les artisans africains convertis. Donc ici, il s'agit de prouver dans cette exposition combien, après la conversion, ces sauvages, entre guillemets, comme ils sont qualifiés ici, font des progrès, y compris plastiques. La superstition, nous dit toujours ce livret, la superstition est également indiquée par les tatouages, par de nombreuses idoles et fétiches que l'on peut voir ici. La collection existe toujours, elle est aujourd'hui comprise dans le musée d'ethnologie, d'ethnographie du Vatican, qui est en train de rouvrir actuellement ses portes dans une scénographie d'Adrien Gardère, qui d'ailleurs est aussi celui qui a pensé l'espace intérieur du Louvre Lens. Alors, qu'est-il advenu des musées missionnaires du 19e et du début du 20e siècle ? Je disais tout à l'heure que certains n'existent plus, qu'ils ont disparu dans les années 60, mais certains existent encore. Je vous montre ici simplement à titre d'indication une photographie prise à l'intérieur du musée missionnaire de Steyle, l'un des grands musées missionnaires encore ouverts aujourd'hui aux Pays-Bas. Et dans d'autres cas, les collections, comme celles des collections d'objets des terres de mission lyonnaises, ont été versées, données, déposées dans des collections publiques. Donc ici, il s'agit des objets de la collection d'objets de l'œuvre de la propagation de la foi à Lyon, qui a été déposée il y a quelques années au musée des Confluences. Donc les musées publics ont hérité, ont absorbé des collections missionnaires prises dans les conditions que j'évoquais, ou encore les collections de la mission protestante, de la mission baloise, qui, il y a quelques années, en 2015, ont été intégrées aux collections du musée des cultures, du musée ethnologique de Bâle, que vous voyez ici sur la droite. On trouve aussi, c'est le deuxième volet de ce moment consacré à la muséographie missionnaire et à la mise en scène des collections africaines dans les collections européennes. On trouve aussi un autre cas de figure, extrêmement intéressant également, celui de missionnaires qui livrent directement, qui sont en contact direct avec des musées publics, donc sans ce passage par les musées missionnaires. Je voudrais donner simplement un ou deux exemples. Le premier est lié au musée du Quai Branly et aux institutions qui lui ont précédé, donc le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui dans les années 30 notamment a reçu quelques objets envoyés par le père spiritain Constant Tastevin. Vous voyez ici un label lié à un objet, une statuette magique Bumba Mazi, originaire de la province de Cabinda. Et le label indique, le cartel indique que cette pièce de 40 cm de hauteur a été collectée en 1933 par le père Tastevin et qu'elle est aujourd'hui au musée du Quai Branly. Le père Constant Tastevin, que j'évoquais à l'instant, est un missionnaire particulier au sens où les objets qu'il a recueillis l'ont été lors de voyages rapide, très rapide, dans différentes régions. Il n'était pas implanté dans les régions d'où il a envoyé des objets, mais il est bien allé dans les années 30 à la recherche de collections pour former des collections, notamment dans la région de l'actuelle Angola. Vous voyez ici la statuette dont il est question, une statuette magique d'après la dénomination actuelle dans le musée. Et nous avions déjà fait connaissance du père Constant Tastevin, souvenez-vous, lorsque nous avions évoqué la première réclamation connue d'objets africains, cette lettre d'un vieux chrétien de 78 ans conservée au musée du Quai Branly, où le vieux chrétien réclamait qu'on lui rende des objets dynastiques, des objets de pouvoir qui n'étaient pas des fétiches, qu'avait pris précisément ce missionnaire Tastevin. Et la lettre, souvenez-vous, était adressée à un père Lorenzo Mambuco, dont on sait par des photographies qu'il a été l'intermédiaire, en fait, l'un des auxiliaires de Tastevin sur le terrain, donc un prêtre africain converti lui-même qui a aidé Tastevin à former ses collections. Et vous le voyez ici, photographié par Constant Tastevin avec l'un de ses élèves et quelques fétiches, entre guillemets, quelques statuettes magiques présentées devant lui. Et certaines d'entre elles sont aujourd'hui présentes dans les collections publiques française, celle du musée du Quai Branly en l'occurrence. Clément Tastevin est un exemple d'un missionnaire qui a livré directement, qui a travaillé directement pour un musée public. On peut évoquer d'autres exemples et je le ferai rapidement ici, celui d'un autre père spiritain dont le nom est Henri Tri, qui a travaillé pour le musée de Neuchâtel en Suisse, et Léo Bitremieux, déjà évoqué. Je le fais rapidement et il ne s'agit que de trois exemples qui donnent une simple idée minuscule de l'ampleur de ce travail des missionnaires, de certains missionnaires pour certains musées et des relations qu'ils ont pu entretenir avec des directeurs de musées. Ici, donc, on est en relation avec le directeur du musée de Neuchâtel et vous voyez une lettre adressée, une liste adressée par le père spiritain Henri Tri qui se trouve dans la région qui correspond à l'actuel Gabon, une lettre donc adressée sur le papier à l'aide de la congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie en 1902 où il est question notamment d'un biéri et de la, je cite la lettre, d'une tête de statue qui surmonte le coffre d'écorce où sont enfermés les crânes de la famille. C'est devant cette tête que l'on place les mets offerts en sacrifice. Chaque matin, la statue est ointe d'huile de palme par la première femme. Le coffre ne doit jamais être ouvert devant les femmes, enfants et jeunes gens non initiés encore au culte du biéri. C'est la principale divinité, Pawin. Écrit ici donc le père Tri, et on sait par la correspondance qu'il a pu entretenir avec le directeur du musée de Neuchâtel qu'il y avait un véritable business, peut-on dire, entre les deux, entre ce prêtre qui a accès donc à ces reliquaires très intimes qui sont conservés dans les familles et ce directeur de musée qui souhaite obtenir de telles pièces pour son musée. Je vous lis une réponse ou une lettre adressé par le directeur du musée à Henri Tri, donc dans ces années 1900-1902. Il lui indique, le directeur de musée, « La caisse renfermant les objets Fang que vous avez adressés à notre musée vient de me parvenir. Je l'ai déballée et en ai opéré la reconnaissance. Malheureusement, j'ai eu de la peine à identifier toutes les pièces, plusieurs n'ayant ni d'étiquette ni de numéro. Mais vous nous en donnez un supplément d'information, vous nous en donnerez, pardon, un supplément d'information l'hiver prochain quand vous viendrez à Neuchâtel nous faire les conférences promises. La collection des crânes est très intéressante. Je la ferai étudier. Veuillez encore, s'il vous plaît, me faire savoir à quel prix vous évaluez votre collection. » Donc ici, plusieurs aspects dans cette lettre. D'abord, le fait que les informations ethnographiques utiles au directeur de musée sont seulement partielles et qu'il le regrette, qu'il a du mal à contextualiser les pièces qu'on lui envoie, d'une part, mais d'autre part, qu'il attend la venue du missionnaire qui viendra faire des conférences scientifiques. Donc là encore, l'aspect d'expertise scientifique, ethnographique, ethnologique, du missionnaire en question, et puis troisième aspect extrêmement intéressant, la question du prix, puisque ces missionnaires se font payer par les musées publics l'envoi de pièces, contrairement à l'envoi de pièces qu'ils effectuent pour leur propre congrégation, qui est généralement gratuit. Et d'ailleurs, le directeur du musée, donc monsieur Knapp, va établir un reçu d'une valeur de 200 francs pour la collection de tri. Je vous montre ici ce reçu signé à Neuchâtel le 26 janvier 1902, me semble-t-il, reçu de monsieur Knapp, conservateur du musée ethnographique de Neuchâtel, la somme de 200 francs pour une collection d'objets Fang signée tri. La pièce dont j'ai lu la description à l'instant, cette tête de bois, est celle-ci. C'est la pièce maîtresse du musée ethnographique de Neuchâtel. Elle provient donc de cette région où se trouvent les Fang et où est pratiqué le culte du Biéry, que vous voyez ici inscrite sur la carte, c'est-à-dire dans l'actuel Gabon, et elle est aujourd'hui au musée ethnographique de Neuchâtel. Dans un ouvrage qu'il a publié en 1912, l'un des nombreux ouvrages qu'il a consacré au Fang, Henri Trille a décrit ces pièces, ce type de pièces, et il les décrit en des termes ici destinés au grand public, qui ne sont donc pas des termes scientifiques, et vous allez voir combien ces termes sont éloignés de l'idée qu'on peut se faire d'une analyse ethnographique neutre. Et il s'agit bien de textes avec une intention qui démontre non seulement la supériorité civilisationnelle, mais aussi religieuse de ces missionnaires. Je vous lis le texte. Vous remarquez d'ailleurs qu'on retrouve la photo que je vous montrais en entrée de cours. De manière amusante, la photo ici est maquillée, puisque l'homme africain qui se tenait derrière ces reliquaires porte sur la version destinée au grand public sous la plume du révérend Père Tri, porte une chemise. Une chemise lui a été ajoutée, alors que sur la photographie originale, il est torse nu. Mais je lis le texte de Tri, donc, à propos de ces statues, de ces reliquaires, de ces statues qui sont posées par-dessus les paniers à l'intérieur desquels se trouvent ces ancêtres, la tête des ancêtres des familles. Dans un coin retiré de la case Pawin, souvent dans la deuxième chambre, chez les guerriers, les vieux chefs surtout, vous trouvez une vaste boîte ronde, haute parfois de près d'un mètre, faite d'une écorce spéciale roulée et cornée. À l'intérieur, si vous avez la curiosité de l'ouvrir, vous trouverez 5, 10, 15, 20 crânes, parfois dans un état de vétusté, de délabrement plus ou moins avancé, veufs l'un d'une molaire, l'autre d'une mâchoire entière, mais tous uniformément barbouillés de rouge. Cette boîte, c'est le sac au parchemin, le chartrier de nos Fang. Il n'est pas fort élégant, mais chacun fait ce qu'il peut en ce monde. Quand meurt le chef de famille, son fils aîné, après maintes cérémonies que nous verrons plus loin, détache soigneusement le crâne du mort et le place ensuite dans la boîte d'écorce où, barbouillé de rouge, il va rejoindre les aïeux et attendre son successeur. Et sur la page suivante, le texte fait mention des statues, qui sont des sculptures en bois, des petites sculptures en bois qui surmontent ces caisses de crâne, et il dit « Au-dessus de cette boîte, On place souvent une grossière et hideuse statue taillée à grands coups de hache dans un informe tronc de bois noir. Cela, à proprement parler, c'est Bieri, le dieu national, le fétiche universellement redouté des non-initiés, la statue, représentation du dieu invisible du mal, celui qu'il s'agit de se concilier, auquel de temps à autre, aux époques de pleine lune surtout, on offre dans un coin reculé de la forêt sombre les victimes du sacrifice. Ce texte montre d'une part que le prêtre missionnaire a accès à de tels objets, il évoque la curiosité qu'on peut avoir à ouvrir ces caisses, curiosité, et ici toute la question du consentement se pose. Alors, bien sûr, on peut considérer que les populations converties donnent de bon gré, laissent de bon gré ce missionnaire regarder à l'intérieur des reliquaires, se saisir des crânes et les envoyer en Europe, mais on peut imaginer aussi que certaines résistances ont dû lui être opposées. Et ce qui frappe, c'est l'utilisation du terme de hideux, de statue hideuse, faite grossièrement à la hache, statue hideuse, qui sont hideuses entre guillemets, extrêmement prisées par les musées européens, par le marché de l'art d'ailleurs, sur lesquels nous reviendrons dans deux séances, et qui lui permettent un trafic lucratif, notamment avec le musée de Neuchâtel. Donc c'est hideux pour ce texte à vocation pédagogique et grand public, mais en revanche, le prêtre sait manifestement très bien la valeur qu'il peut en tirer en l'adressant à un musée. Dernier exemple, celui déjà évoqué de Léo Bitremieux, qui était un père cheute, qui a vécu extrêmement longtemps dans la région du Mayombe, déjà évoquée. On le voit ici sur une photographie prise en 1925, au verso de laquelle Bitremieux a noté « Puissant baobab », puisqu'on le voit au pied de ce baobab avec trois autres personnes, « Puissant baobab, le Nkondo de Mumba, l'arbre sacré de Muanda. Il s'apparente, semble-t-il, au Nkizitsi, l'esprit de la terre que j'ai détrôné à cet endroit. » Il faut 10 hommes pour arriver à l'étreindre. L'ombre sur la gauche est l'entrée d'un creux au milieu de l'arbre dans lequel tiennent un lit, une chaise et une table. Et vous voyez que Léo Bitremieux, qui a vécu très longtemps dans cette région, a envoyé, s'est saisi lui aussi d'un grand nombre d'objets. Il utilise le terme de détrôner d'un grand nombre de statuettes magiques, sacrées, rituelles, donc qui sont des Nkizi. Je vous en montre une ici qui a été exposée récemment dans l'exposition que j'évoquais tout à l'heure sur les Mayombe, et sa face et sa vue arrière. Donc ces statues, nous expliquent les spécialistes, sont dotées de charges qui leur donnent leur puissance. Bitremieux en a envoyé un très grand nombre aux Pays-Bas, et là encore, il ne l'a pas fait gratuitement. Le catalogue que j'évoquais tout à l'heure nous montre qu'il est fait l'objet, que ces statues font l'objet de négociations, et elles sont envoyées par Bitremieux au musée universitaire de Louvain, dont le directeur est en relation avec Bitremieux, des relations qui s'enveniment rapidement, comme nous l'indique le catalogue. Bitremieux écrit à son frère, nous dit le catalogue, on est au début du XXe siècle, « Cela devient ridicule. Nous voulons faire de notre mieux, mais le temps, c'est de l'argent. Et pour tous nos efforts, le musée de Louvain ne nous donne pas un rond. Nous, flamands, sommes tout de même bonnes pattes. » Donc il regrette, ici Bitremieux, que les envois réguliers et massifs qu'il fait au musée de Louvain ne sont pas rémunérés ou pas rémunérés comme il le souhaiterait. L'article indique ensuite dans le catalogue que Bitremieux voulait une compensation en échange de ses envois, mais qu'elle ne vient pas. Et finalement, le missionnaire ethnographe, nous indique cet article, continua à collectionner, même si c'était tout autant pour sa famille que pour le musée. En août 1910, il fait savoir à son frère qu'il envoie 2 caisses de bois tropical chez lui, en Europe, et 5 caisses à Louvain, qui contiennent, entre autres, donc ces statuettes sacrées. Si on regarde les photographies présentes dans les archives, aujourd'hui publiées dans le catalogue évoqué, on voit que Bitremieux a documenté la situation originale de certaines statuettes, qui sont des statuettes funéraires, ici, placées dans leur lieu d'origine, et il s'approprie dans des conditions qui ne sont pas décrites, qui ne sont pas documentées, certaines de ces statuettes funéraires qui sont aujourd'hui conservées dans les collections belges. Vous voyez ici la représentation d'une femme et sur cette autre photographie, deux statuettes côte à côte dans leur site funéraire d'origine et dans des photographies contemporaines qui les montrent dans le musée où elles sont présente aujourd'hui. La question du consentement, là encore, n'est pas élucidée. On ignore les conditions exactes dans lesquelles ce missionnaire s'est approprié ces statuettes funéraires, mais on peut imaginer, étant donné l'importance symbolique, sacrée et leur fonction dans ces cultes, que leur cession n'a pas forcément été naturelle. Je finis très rapidement avec la troisième partie intitulée « Désarroi fatal », un terme que j'emprunte à Andrea Seriana Meneri, qui a publié des études extrêmement importantes sur l'imaginaire de la dépossession en Centrafrique notamment, et qui, dans un recueil intitulé « Entre errance et silence », revient sur un moment de dépossession infligé par un père spiritain à un sorcier de Centrafrique. Et je vous lis simplement un extrait de cet ouvrage d'Andrea Seriana Meneri, où il est question de l'acte de dépossession et de ses conséquences. Et ce que j'essaye de faire en faisant cela, c'est de retourner comme toujours la perspective et de voir ce que produit, quel effet produisent ces départs d'objets ou ces confiscations d'objets ou la disparition de certains objets à l'initiative des missionnaires sur les intéressés, sur les populations qui les possédaient avant ou sur les individus qui les possédaient avant. Ici, on a un beau témoignage, même si c'est un témoignage du père lui-même, mais il permet de sentir peut-être quels ont été les effets produits par de tels départs massifs d'objets rituels. Je cite donc l'ouvrage Andrea Seriana Meneri. Dans un carnet manuscrit où il consigne ses souvenirs dans les années 40, conservé aux archives de la Congrégation du Saint-Esprit, le père Joseph Daigre évoque un maître sorcier très puissant, rencontré autour de 1910, possédant un grand nombre de fétiches et très sollicité par les indigènes qui lui demandent des guérisons. Un jour, le missionnaire français lui soustrait, et c'est ainsi qu'il décrit lui-même son action dans ses carnets, il soustrait en s'introduisant chez lui, citation, « quatre petits sacs de fétiches qu'il expédie à Aix-la-Chapelle pour une exposition missionnaire ». Fin de citation. Le sorcier les réclame en vain, il menace et contre-attaque, fabrique de nouveaux fétiches dans lesquels il introduit, écrit le missionnaire, « une pincée de la terre que j'avais foulée du pied en y insufflant une imprécation appropriée ». Mais le père Joseph Daigre, où ces imprécations ne suffisent manifestement pas à restituer les fétiches, entre guillemets, les amulettes aux sorciers, et pris de dépit, ce sorcier subit la mort inexpliquée de ses deux femmes et il finit par s'exiler au Congo belge, il finit par quitter sa région d'origine. Et ce témoignage conservé donc dans les archives de la Congrégation du Saint-Esprit, correspond à une photographie conservée au même endroit, où on voit sur la gauche donc, le père Joseph Daigre, le père spiritain, et sur la droite un autre père qui encadre cinq personnes africaines, deux femmes, enfin en fait cinq, six, sept, deux femmes, deux nouveau-nés, deux enfants très jeunes, et trois hommes. Et au verso de cette photographie, et porter l'inscription suivante, extrêmement intéressante pour la question du consentement et la question de l'effet produit par ces spoliations missionnaires. Il est écrit « De la main du père Echobar, donc qui est l'autre personnage sur la photo, ici à droite, dans un village Togbo, à gauche, le père Daigre, à côté de lui, le plus grand sorcier du pays, qui a juré la mort du père. » Le père lui a en effet volé tous ses plus grands fétiches. Ce sorcier est mon ami, il m'a donné une poule comme cadeau quand je suis passée dans son village. À côté de moi, deux guerriers Togbo, tous les autres étaient dans la forêt occupés à faire du poison. Le sorcier est en effet des plus grands criminels du pays. Deux femmes Togbo dans le costume national. C'est Togbo dans le costume national, point d'exclamation, note celui qui a rédigé cette notice. Ces Togbo, comme vous le voyez, il faut faire à l'humilité en passant dessous. Oura, Côme, les grands seront abaissés. Donc, on voit probablement ici le sorcier en question, probablement ces deux femmes qui sont, d'après donc, le récit lu précédemment, mortes de manière inexpliquée. Le sorcier, séparé de ses fétiches, va finir dans un désarroi fatal, pour reprendre l'expression de l'auteur de cet ouvrage, et quitter le pays. Je finis là-dessus, donc pour rappeler combien ces saisies, ces spoliations, ces prises, ces confiscations peuvent créer une vulnérabilité psychique dans les populations touchées, une vulnérabilité politique, on l'avait vu l'autre jour avec la prise des objets dynastiques que revendiquait le vieux chrétien de 78 ans, mais aussi une vulnérabilité sociale, donc une fragilisation des populations locales, ici, dans le cas des missionnaires, pour des raisons qui sont affichées comme des raisons religieuses, mais qui, derrière, on l'a vu, ont aussi des intentions ou des implications liées au marché de l'art et à la constitution des musées publics européens. Je vous remercie et on se retrouvera pour la prochaine séquence la semaine prochaine, prochaine séquence intitulée « La méthode scientifique ».